Julien Peers.
Alors autant je suis parfaitement serein quand Jérôme Lacroix entre dans ce studio pour nous donner les dernières infos, autant je me raidis d'inquiétude quand Paul Lassen se saisit du micro. Notre trublion, jamais avare en jeu de mots et autres calembours. Bonjour mon cher Paul.
Bonjour à tous.
Quel accueil.
On se recevoir ici. Hein. Ouais. C'est le pressing, les articles les plus insolites de la presse du jour, racontés également par Omblin Roche. On va d'ailleurs commencer avec vous, ma chère Omblin.
Spotify contre l'industrie de la musique, c'est-à-dire dans le Figaro ce matin, ça ressemble à une histoire d'amour qui fonctionne dans un seul sens.
Darling, I will be loving you.
Ed Sheeran.
Voilà, c'est exactement ce que je redoute.
C'est comme Bourville, on peut mettre du Ed Sheeran partout. Il faut rappeler que l'industrie de la musique a beaucoup souffert du piratage pendant plus de 10 ans. Sa planche de salut a été l'essor des plateformes de streaming. Alors de son côté, Spotify, créé il y a 14 ans, qui connaît un succès quand même international sans précédent, continue d'accumuler les pertes, des pertes qui s'élèvent à 186 millions d'euros, malgré un chiffre d'affaires qui a bondi de 28% ces derniers mois. Un paradoxe, allez-vous me répondre. L'explication, ce sont les royalties faramineuses versées aux majors Universal, Warner ou encore Sony, qui contrôlent la moitié du marché mondial de la musique.
Le streaming, qui servent à rémunérer les artistes.
C'est les rémunérations, exactement. Le streaming est en toute logique devenu leur première source de revenus. Alors trop c'est trop pour Spotify qui a décidé de taper du point sur la table, nous dit le Figaro. Le groupe suédois ne veut plus des règles actuelles de rémunération. Elles sont calculées sur le nombre d'abonnés payants. Eh bien, Spotify demande aux maisons de disques qu'elles soient payées ces rémunérations désormais en fonction de ce que les abonnés écoutent. Et c'est à ce niveau que la plateforme de streaming peut agir en incitant ses abonnés à écouter autre chose que les artistes produits par les majors, comme Ed Sheeran, des podcasts par exemple. Spotify et Apple Music investissent beaucoup dans ce domaine. Elles les encouragent aussi à se tourner vers des musiques d'ambiance.
Vous êtes bien sur Europe 1 et non sur Feng Shui FM.
Alors ça, c'est pas forcément proposé effectivement par les grandes maisons de disques. Si 20% des abonnés écoutent des contenus...
C'est bien pour s'endormir ça.
Ouais. Et là, j'ai pas l'artiste, par contre. J'avais Ed Sheeran.
C'est Ed Sheeran ralenti. Si 20% des abonnés écoutent des contenus non issus des grandes maisons de disques, elles auront moins de poids et, de fait, leur rémunération baisseront. Drake, chez Universal, l'artiste le plus écouté ces 10 dernières années sur Spotify, qui ramène donc beaucoup, beaucoup d'argent. Un mot du cas Deezer, cas très complexe. La plateforme est contrôlée par les fonds Access Industries du milliardaire américain Len Blavatnik. C'est lui qui possède Warner Music, deuxième producteur mondial de musique.
Il y a un petit conflit d'intérêt.
C'est ce qu'on appelle tomber sur un os, ou quand on est jugé parti. Voilà, le bras de fer entre les plateformes de streaming et l'industrie de la musique, c'est dans le Figaro.
Merci beaucoup, Omblin Roche. Mon cher Paul Lassen, sur cette terre de Drake, à vous.
Alors hier soir, nos confrères de 20 minutes ont révélé la candidature à la mairie de Marseille d'une ancienne star de l'OM.
Pas la même ambiance, hein.
L'ancien attaquant Mamadou Niang, plus de 100 buts avec le club phocéen, champion de France en 2008. Il sera candidat dans les 15e et 16e arrondissements de la ville sur la liste de La République En Marche du candidat Yvon Berland, un candidat qui mise sur l'image très populaire de l'ancien joueur et sur son implication dans la vie associative à Marseille. Il faut savoir que Mamadou Niang est également dirigeant d'un second club qui a été créé il y a peu à Marseille qui s'appelle l'Atlético Marseille.
C'est l'ancien club de Consola, c'est ça?
C'est absolument l'ancien club de Marseille Consola.
J'étais allé faire un reportage chez eux quand ils évoluaient en national et qu'ils étaient à l'antichambre de la Ligue 2. Et un club très sympa dans les quartiers nord qui fait un magnifique travail social.
Voilà, il y a notamment Cyril Hanouna qui a investi de l'argent dans ce club. Alors, mais du coup, la question, c'est comment cette idée est venue à Mamadou Niang? Eh bien, tout simplement lors d'un dîner avec le président de la République, Emmanuel Macron, grand fan de l'OM. Emmanuel Macron est très attentif à la situation marseillaise, nous dit 20 minutes. Au cours d'un dîner, il m'avait donné la parole, il m'avait laissé rester moi-même, dire les choses avec mes mots. On a pu discuter des problèmes qu'il y avait à Marseille et c'est ce qui m'avait plu.
C'est rare un fouteux candidat?
Alors le mouvement a été lancé au début des années 2000 avec l'ancien gardien de l'AJ Auxerre, Fabien Cole. et l'ancien joueur de Nancy, Olivier Rouillet, aujourd'hui consultant. Mais cette année, c'est un record qui va être battu. On aura donc Mamadou Niang à Marseille, mais trois autres champions de France vont sauter le pas à Paris. C'est le vice-champion du monde en 2006, Vikash Dorasso, qui est candidat sur une liste France Insoumise dans le 18e arrondissement. À Lille, c'est un champion de France en 2009 avec le LOSC, Ludovic Obraniak,
qui était devenu international polonais, je crois.
Oui,
après.
Qui a la double nationalité, qui est lui sur une liste Les Républicains. Et enfin, à Saint-Étienne, c'est deux légendes qui vont s'affronter, deux membres d'une même fratrie, même les frères Revelli. Patrick brigue la mairie avec le soutien d'En Marche. Hervé, lui, soutient le maire sortant Les Républicains avec une idée bien claire en tête pour l'ancien attaquant des Verts.
En football, quand on rentre sur le terrain, on part pour gagner. En politique, c'est la même chose.
Allez, qui c'est le plus fort, évidemment, c'est les Verts.
Témoignage d'Hervé Revelli au micro de Théo Manval.
Ça doit être sympa les dîners de famille en ce moment chez les Revelli.
Ça discute politique, ça discute moins foot, du coup. Ou les deux.
Beaucoup de choses à dire sur l'équipe de Saint-Etienne actuellement. Et pas forcément du bien.
Oh, ça va, hein. Le Lyonnais, là. Merci beaucoup.
Ne m'insultez pas.
J'ai choisi pour ma part, les amis, un article à lire ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Je vous lis son titre. Le fait maison peut vous faire économiser jusqu'à 270 euros par an. C'est ce que révèle un sondage Ipsos qui s'est intéressé à la mode du DIY, acronyme...
Do it yourself.
Exactement. Le fait maison en bon français. Une mode qu'adopte de plus en plus de Français, selon cette étude. Alors pourquoi
Pour des raisons écologiques.
Oui, c'est en effet l'une des explications. Nous sommes tous en train de prendre conscience de notre impact sur la planète. Alors si on a un bout de jardin, pourquoi ne pas y planter quelques plants de tomates au lieu d'acheter celles venant d'Espagne en camion? C'est meilleur pour la planète, meilleur bien souvent pour la santé, mais aussi meilleur pour le porte-monnaie, jusqu'à 20 euros d'économie par mois selon l'étude. Et ça compte pour des familles qui parfois n'ont pas beaucoup d'argent à la fin du mois. L'article publie par exemple le témoignage d'un père de famille qui, grâce à son potager et ses quelques poules, a divisé par deux sa facture alimentation.
Mais le fait maison, c'est pas que pour la cuisine?
Non, alors ça s'applique absolument à tout, hein. Que ce soit par nécessité ou par plaisir. Les vêtements, avec la couture ou le tricot, la poterie, la mécanique ou encore l'ébénisterie, par exemple, hein. C'est à la fois utile et exaltant de savoir fabriquer soi-même une chaise ou une table basse. Vous meublez votre maison à moindre coût et vous videz la tête en même temps. Je vais prendre mon cas personnel pour raconter une petite anecdote. Je me suis mis au travail du bois quand j'ai adopté des chats. J'ai adopté deux chats d'un coup. Je leur ai construit un arbre pour qu'ils puissent grimper.
Ah, oui.
Je suis un homme...
Enfin, un arbre à champ, d'accord.
Je suis un papa poule, un papa chat en l'occurrence. Et depuis, je me suis mis à construire des petits meubles qui me coûteraient bien plus cher dans le commerce. Il y a pléthore de vidéos sur Internet. Je vous invite à aller sur YouTube. Hein. C'est une mine d'or de ce côté-là. Ça vous permet d'apprendre les bases. L'investissement est certes un petit peu conséquent au début. Hein. On peut acheter une scie sauteuse.
Oui, c'est ça, voilà, c'est matériel. Mais
ça demande, quand même quelques petits sous-sous. Mais derrière, vous les gardez longtemps et ça vous servira toujours. Bref, le fait maison, c'est pas si compliqué, ça fait du bien et ça n'a pas de prix.
Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Boîte à outils, boîte à outils. Au cours d'une de mes grossesses, devant lui, je pestais sans cesse contre l'incroyable cherté d'une layette de bébé. Boîte à outils.
Voilà! Le pressing, c'est terminé pour aujourd'hui, les amis.
On peut mettre du Brassens partout aussi.
Mais oui, mais Brassens, c'est éternel.
Mais comme Bourville.
Ouais.
C'est du do-it-yourself, Brassens. Hein. On peut le refaire chez soi aussi. Hein.
C'est vrai.
La moustache et la pipe.
Merci beaucoup. À demain, les amis.
D'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. What a outie. Europe 1.